Prions. Seigneur, je ne suis rien et je n'ai aucune prétention. Ce que tu m'as donné la grâce de faire, je ne veux pas que cela soit ce que je vais brandir aux autres pour dire « Suivez-moi, faites ce que moi j'ai fait. » Je ne veux pas avoir aucune prétention dans ce sens-là, mais je veux juste que de la même façon que tu m'as éclairé par ta parole pour m'occuper de mes propres enfants, Seigneur, que ta parole aussi éclaire. Simon-Pierre et Aurélie nous éclairent tous aussi, les jeunes et les plus âgés, pour que nous sachions être utiles, Seigneur, dans la charge de s'occuper des enfants. Je te le demande dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Les enfants aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, ils sont soit des rois, on leur laisse faire tout, on leur achète des GSM très tôt, déjà tout petit, à l'âge de 6 ans, il y a déjà des gamins qui ont des GSM qui coûtent plus cher que le mien. Et parfois c'est étonnant parce qu'ils savent à peine s'en servir, mais ils ont déjà un GSM. Parce que parfois, certains parents ont peur que l'enfant se perde. Quand il prend le bus, tu dois me dire où tu es. Je suis à la station d'essence. Hé, fais gaffe! Certains enfants sont donc super gâtés et les moyens aujourd'hui sont énormes pour pouvoir combler les enfants. Déjà, il y a des familles où il faut leur espace, leur chambre, leur bureau, leurs trucs, tout. Et malheureusement, certains parents vivent centrés sur leurs enfants. Conséquence, le jour où les enfants ne sont plus là, c'est la guerre. Papa et maman ne s'entendent plus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre une vie conjugale, mais ils ont vécu toute leur vie centrée sur leurs enfants. Des enfants à qui on permettait tout, on tolérait tout, on pardonnait tout et qu'on surprotégeait. De l'autre côté, toujours dans le même monde où nous sommes, il y a des enfants qui souffrent, qui sont fragiles, qui sont pauvres. Des enfants qu'on entraîne dans la guerre, tout petits, qui vont mourir comme des... Enfin, il y a des enfants qui travaillent dans des conditions horribles pour gagner à peine de l'argent. Il y a des enfants maltraités, abusés. Nous avons nos hontes dans notre société à propos de la façon de s'occuper des enfants. Un monde où il y a d'un côté une gâterie, je dirais même une tendance à pourrir les enfants, et de l'autre côté, un monde où nous mettons les enfants dans des situations difficile et pénible, où ils sont blessés, ils sont détruits avant même de grandir. Ça, c'est notre monde. Élever un enfant dans ce monde-là est très difficile, bien sûr. Et encore plus quand on est chrétien, parce qu'on doit faire face à ce monde-là et proposer un autre modèle d'éducation pour les enfants. J'aimerais, à travers deux textes ce matin, approcher plutôt comment la Bible voit l'éducation. Vous me pardonnerez, je ne serai pas en 30 minutes, 40 minutes, je ne pourrai pas être aussi exhaustif. Mais je pourrai donner juste des pistes et les autres éléments pourront toujours venir après. Deux textes. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. D'autres textes disent oriente l'enfant. D'autres disent encore incline l'enfant. Deuxième texte. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. D'autres versets, dans des traductions qu'on appelle plus dynamiques, disent « et vous, parents ». Je m'expliquerai là-dessus. Selon les deux textes, élever un enfant n'est pas un travail qui se fait par hasard. Ce n'est pas un travail qui se fait au coup par coup. Ce n'est pas un travail qui se fait au jour le jour. C'est une tâche qui se fait selon une vision, selon un plan. Tu n'éduques pas un enfant juste en disant « tu as faim ? Tiens, tu veux un tel ? Tiens, je te conduis à l'école. » Non. Élever un enfant, c'est un acte réfléchi, un acte responsable. La question, c'est toujours « qu'est-ce que je vise dans l'éducation de mon enfant ? Qu'est-ce que je recherche ?» Si c'est pour lui donner les bases chrétiennes, alors je réfléchis, comment donne-t-on les bases chrétiennes à un enfant ? Si je veux en faire un architecte, comment on fait pour qu'un enfant devienne un architecte ? Si je veux en faire un bandit, c'est pas difficile. Hein ? Il suffit de lui parler du bien que l'on a quand on gagne de l'argent en étant bandit. La vision doit présider l'éducation de l'enfant. L'enfant, ma question, c'est quel est le produit final qui va résulter de mon enfant à l'âge adulte ? Comment puis-je, moi, à l'âge adulte, me dire « ah oui, ça, c'est le travail que j'ai fait ». Sachant que un enfant, c'est une personnalité, c'est pas un robot. On ne va pas lui faire exactement comme on veut. Allez, garde à vous, bouge ici, bouge. Non, c'est un humain avec toute la dynamique aussi personnelle qu'il faut rencontrer et dont il faut tenir compte. Avec quelle valeur vais-je construire ce qui sera la vie d'adulte de mon enfant ? C'est aux parents, à vous parents, c'est aux parents qu'incombe la tâche d'y penser et de mettre cela en route. Les deux parents doivent se parler et chercher ensemble dans la parole de Dieu ce qui peut les aider. Que dit le premier texte ? Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La tâche des parents est d'emmener l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Ce chemin tient compte, bien sûr, de la personnalité de l'enfant. Mais c'est un chemin que l'on doit rechercher et qui doit être approuvé de Dieu. Je ne vais pas mettre mon enfant sur un chemin que Dieu n'approuve pas. Le livre des Proverbes, vous savez bien que c'est le livre de la sagesse. C'est un livre où Dieu parle comme un père à ses enfants. Mon fils. Ce chemin, bien sûr, doit tenir compte de la personne de l'enfant. C'est pourquoi on dit le chemin qu'il doit suivre. L'enfant a son destin. Ne nous trompons pas sur ce fait-là. L'enfant a sa route. C'est la route que Dieu lui a tracée. Mais notre tâche des parents, c'est de pouvoir, avec son caractère, avec sa façon d'être, avec ses goûts, l'emmener sur son chemin, mais en veillant à ce que ce chemin soit approuvé par Dieu. Et nous lui apportons des éléments qui enrichissent sa marche sur cette route-là. C'est comme ça que vous allez voir, certains enfants vont vouloir être des maçons, d'autres vont vouloir être plutôt des psychologues ou je sais pas des astrologues, peu importe. instruire son enfant. J'étais curieux parce que le terme hébreu de ce mot fait une variation entre plusieurs interprétations. C'est vraiment gay. L'interprétation la plus improbable, la plus rabbinique, avec tous les développements interprétatifs, dit que instruire un enfant, c'est comme lui donner du goût. C'est comme un enfant à qui on met chaque jour un goût dans la bouche, pour que l'enfant s'habitue à ce goût-là. Et lorsqu'il s'habitue à ce goût-là dans le palais, l'enfant aime cette chose-là. Et l'enfant grandit en appréciant cette chose-là. Donner du goût, donner l'envie à l'enfant. Instruire son enfant, ce n'est pas lui matraquer avec des enseignements. C'est créer un cadre dans lequel ses enseignements, c'est agréable. C'est du goût pour lui. Ça prend du sens. Il aime ça. Instruire, c'est donner du goût. Mais, dans son sens le plus fort, instruire un enfant, c'est en quelque sorte le consacrer à Dieu. Faire en sorte que, dans ma manière de l'élever, je l'emmène à ce que Dieu soit consacré dans sa vie. C'est un travail de longue haleine. Donner l'envie à son enfant de suivre le chemin tracé par ses parents ou être attentif avec ses parents sur le chemin que lui doit suivre. Est-ce que nous pensons cela quand on pense à l'éducation des enfants? Qu'un enfant n'est pas là pour qu'on lui martèle les principes. Il est là pour que les principes deviennent fast-corps avec lui. Finissent par devenir des choses qu'il aime, qu'il accepte, parce que oui, c'est normal, c'est logique, ça a du sens. Les parents donc pourront amener un enfant à détester quelque chose ou à aimer quelque chose. Si nous voulons que les enfants aiment l'amitié, les parents peuvent valoriser les bonnes relations amicales. J'ai un oncle, il avait appris à ses enfants à accueillir les gens. Et ses enfants, pas tous malheureusement, mais enfin, beaucoup d'entre eux sont des enfants amicaux. Ils aiment l'amitié. Ils aiment créer des amitiés. Parce qu'ils ont vu ça chez leurs parents. Parce qu'ils ont vu le modèle chez leurs parents. Ils ont vu la joie avec laquelle les parents accueillaient les gens. Si je suis quelqu'un d'hospitalier, alors les enfants le seront aussi. Nous avons tendance à haïr les gens. Nous avons tendance à réprocher aux gens. Et souvent, parce que nous avons tendance à haïr, parce qu'on a tendance à réprocher, ce modèle est reproduit malheureusement chez nos enfants, qui vont eux aussi haïr les gens, eux aussi réprocher aux gens des choses, parce qu'ils nous ont entendu le faire, ils nous ont entendu le dire. C'est donc l'ensemble des valeurs apprises et vécues qui feront le caractère d'un enfant et qui feront son univers d'appréciation. C'est avec cela que l'enfant va grandir et qu'il n'oubliera pas dans sa vieillesse. La voie qu'un enfant doit suivre, c'est la voie que Dieu a tracée, mais en tenant compte de sa personnalité. Soyons donc des parents qui sont en mesure d'être aussi à l'écoute de nos enfants. Pas simplement « tu dois faire ceci, tu dois faire cela, c'est comme ça, tu obéis, tais-toi, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. » Non, c'est un mélange subtil entre une certaine négociation, limitée, bien sûr, on va négocier hein, n'importe comment, négociation limitée, mais aussi une espèce de discipline, de positionnement vers les choses. Sachant que, quoi qu'on fasse, Nous voulons faire les choses que Dieu approuve. Tout parent doit toujours être là avec la question, est-ce que quand je donne des fessées sous la colère, est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Quand je suis dur avec les enfants jusqu'à l'inexplicable, quand je m'analyse moi-même et que j'interdis à un enfant quelque chose parce que j'ai peur, simplement parce que j'ai peur, parce que moi j'ai peur, est-ce que cela est encore éduquer un enfant? Ou bien c'est projeter mes propres peurs, mes propres craintes sur l'enfant? Éduquer un enfant, ce n'est pas une tâche facile. En tant que parent, notre tâche est de connaître la pensée de Dieu pour la famille et pour les valeurs chrétiennes du foyer. C'est aux parents de s'imposer aussi un caractère spirituel que l'enfant pourra imiter ou suivre, qui pourra servir de référence à l'enfant. Les enfants ne prendront jamais tout de nous. Il ne faut pas vous illusionner. Vous n'aurez pas à des copier-coller de vous. Mais les enfants suivront avec leur façon d'être la trame qui nous caractérise. De sorte que on verra des parents et de l'enfant des traits, des ressemblances, mais vécues avec des tempos différents. Et il faut être prêt en tant que parent à endosser l'idée que l'enfant chemine autrement que comme nous sommes prêts à vouloir qu'il fasse. Sinon, on est des parents abusifs, des parents contrôlants, des parents despotiques, et ça ne peut pas faire le bonheur de l'enfant. C'est aux parents donc qu'incombe la tâche de faire un travail en eux-mêmes. Vous allez avoir du boulot. Travaillez sur vous-même, sur vos caractères, sur votre personnalité, pour que vous dégagiez quelque chose qui va être la synthèse que l'enfant va, avec laquelle il va grandir. Que dit le deuxième texte? Éphésiens chapitre 6, verset 4. Donc je disais que certaines versions disent « Et vous, parents ?» Alfred Kuhn, notamment, avec la traduction de la parole vivante. Quelle est la différence? Ce n'est pas une différence anodine. Dans les textes originaux, c'est les pères, pas les parents. Ça, c'est nous, avec notre modernité. C'est une nuance qui n'est pas anodine. Je l'ai déjà dit ici, une fois à l'occasion, dans l'église, j'ai déjà dit que le modèle familial avec lequel nous fonctionnons, nous, les hommes d'aujourd'hui, c'est un modèle grec, inspiré de la culture et de la civilisation grecque. Dans ce modèle, les Grecs favorisent, mettent plus en avant l'égalité. Ils recherchent les équilibres dans l'égalité. Et donc, quand on pousse leur modèle plus loin, bien sûr, les Grecs faisaient quand même la distinction entre les hommes et les femmes, mais quand on pousse le modèle plus loin, on voit que c'est un modèle qui va prôner plus un système égalitaire. Et donc, on va suivre ce modèle-là partout dans tout ce qu'on fait. Mais que veut dire ce texte quand il dit « Père, élevez, n'irritez pas vos enfants ». Nous sommes sur le modèle plutôt hébraïque. Vous savez que la famille, en hébreu, ça veut dire « Bet Av » ou « Bet Av ».« Bet Av », ça veut dire « la maison du père ». La famille, elle est construite autour du père. C'est ça le modèle hébraïque. Les papas qui sont ici et les futurs papas, c'est pas un cadeau, hein. Construire la famille autour de vous en tant que personne demande énormément du travail pour vous. Le modèle hébraïque donc fait porter la responsabilité de l'éducation des enfants sur le père et non sur la mère. C'est au père qu'incombe la tâche de donner sa vision et de prendre en charge l'éducation des enfants. C'est tout le contraire de notre société d'aujourd'hui, qui en apparence prétend que ce sont les parents qui sont responsables. Mais les dames qui sont ici savent très bien que, en réalité, qui éduque les enfants dans notre société ? Les mamans ! Ça, c'est la société d'aujourd'hui. Les mamans. Et alors, ce qui n'est pas bien, c'est quoi ? C'est que quand l'enfant réussit bien, c'est l'enfant de son père. S'il rate, c'est l'enfant de sa mère. On déplace la responsabilité, on met la personne qu'il ne faut pas à la responsabilité et on lui reproche de ne pas être capable de le faire. Vous voyez ça, vous ? Ça, c'est notre société. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est l'homme. Si un jour quelque chose tournait mal chez moi à la maison, je ne dirais pas à ma femme, c'est ta faute. Je dirais à ma femme, oi, oi, oi. Je crois que j'ai quelque chose là que, peut-être que. D'ailleurs, ce n'est pas pour vous cacher, quand ça chauffe à la maison, ma femme me dit, vas-y. Mais oui, et c'est normal, et c'est normal. Je dois l'assumer, c'est ma part, c'est ma part. D'ailleurs, vous le voyez, les mamans sont là, elles peuvent le dire, et les papas sont là. Quand il faut prendre des décisions, quand ça commence à chauffer, qu'est-ce que les enfants font ? Papa ! Papa, qu'est-ce que tu dis, toi ? Oui, parce que lui, on sait qu'il va trancher. Oui, ils ont souvent le mauvais rôle, les papas. C'est les policiers, c'est eux qui doivent remettre les choses en ordre quand ça ne va pas. Donc, mesdames, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas dire que vous êtes déchargés de l'éducation des enfants. Non, 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 non. Vous participez aussi à l'éducation des enfants. Mais celui qui doit être le responsable, qui doit se sentir responsable, qui doit venir avec un projet sur lequel on va avancer, c'est l'homme. Malheureusement, notre société d'aujourd'hui est remplie des drames de vie. Vous savez comment on définit une maladie mentale ? Un des aspects de la maladie mentale, c'est l'absence de l'autorité du père. Beaucoup de personnes en lien avec des maladies mentales sont dans cette situation-là parce que soit le père est abusif, maltraitant, trop dur, excessivement violent ou méchant, ou le père est complètement absent. Il n'est pas là. On peut être vivant et absent. Vous savez ça. J'ai quelqu'un de ma famille qui a eu un enfant avec une fille et ils se sont disputés avec cette fille et cette personne de ma famille a décidé de ne jamais s'occuper de sa fille. C'est donc d'autres personnes de la famille qui s'occupent de cette petite. Il est un père absent. Le père doit donc travailler à cela. Aux États-Unis, on avait constaté, je ne sais pas si vous êtes au courant d'un mouvement qui avait existé dans les années 70-80, on appelait ça les promise keepers, les gardiens de la promesse. C'était parti d'un constat aux États-Unis que les familles monoparentales, avec la maman qui est restée et le père disparu, en prison ou mort ou parti tout simplement, eh bien, étaient dans les familles afro-américaines, étaient 6 familles sur 10. C'est une catastrophe. Et on a essayé d'étudier les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça, et on a découvert que c'est parce que les hommes sont devenus des missionnaires. Ils ont abandonné leur poste de travail. Parfois, je dis à ma femme, c'est dommage de le dire comme ça, mais vous, les hommes, écoutez, parce que ça nous concerne. Peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup de choses qui vont mal dans notre société, ce n'est pas à cause des femmes. C'est à cause de nous, les hommes. Parce que nous ne prenons pas la place que nous devons prendre. Nous n'agissons pas comme nous devons agir. Nous sommes devenus des démissionnaires et des irresponsables. Lorsqu'un homme assume ses responsabilités, prend sa place dans son couple, dans sa famille, dans sa société, eh bien, l'équilibre des choses peut revenir. Bien sûr, donc, je disais, il faut une concertation entre l'homme et la femme pour éduquer les enfants. Le pire, c'est que maman dit ça, papa dit ça. Si ça se passe une fois, ça va. Si ça se passe tout le temps, vous allez vous battre. Parce que l'enfant fera ça parce qu'il sait que maman permet, fera ça parce que papa permet, et maman et papa, c'est la bataille. Que dit ce texte d'Éphésiens ? J'aimerais relever trois choses sur ce texte. Première chose, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Et vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. N'énervez pas vos enfants. Ne mettez pas vos enfants en colère. Ne frustrez pas vos enfants. N'aigrissez pas vos enfants. Ne mettez pas de l'amertume, de la rage, de la colère, de l'irritabilité dans le cœur de vos enfants. Vous, pères, qu'est-ce que ce texte dit ? Ce texte dit que le comportement des parents, et le père ici est cité parce qu'il symbolise l'autorité. C'est lui qui doit trancher les affaires, c'est lui qui doit créer, donner le cadre. Si son rôle consiste à avoir un comportement arbitraire, l'enfant ne sait jamais comment bouger. S'il fait la même chose une fois, il a une baffe. La deuxième fois, il l'a fait, il n'a pas de baffe. Et donc, il ne sait plus, qu'est-ce que je fais au juste ? S'il développe un comportement abusif, et dans tous les sens du mot, abusif, dans le sens de l'autorité, qu'il use son autorité d'une manière exagérée, ou malheureusement, il y a d'autres choses, d'autres formes de maltraitance qui sont malheureusement à citer dans cette société. Vous savez, être père est une tâche pas facile. Parce que les pères sont sous pression. Sous pression parce que parfois les femmes ne les comprennent pas. Et donc, tu as la pression de ta femme. Sous pression parce que les enfants, il faut parfois les discipliner. Et tout le monde n'aime pas discipliner. Et donc, quand tu disciplines, parfois tu as ta conscience qui te dérange. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que, en punissant de telle manière, suis-je juste ? Sous pression par rapport au regard de la société, qui me regarde, comment je m'occupe de mes enfants, mon entourage. Cette pression peut rendre un homme nerveux, colérique, difficile, dur. Mes amis, toutes ces petites injustices qu'on fait avec nos enfants, c'est des choses, c'est comme des bombes à retardement que nous mettons dans nos enfants et qui va nous exploser au nez plus tard. Tout père, tout parent doit réfléchir à ce que les ordres et les recommandations, la discipline qu'il fait à son enfant correspondent à quelque chose qu'il comprend et qu'il accepte. Trop de reproches. Il y a des parents qui ne font que des reproches. Jamais quelque chose n'est bien. Jamais. L'enfant fait quelque chose, c'est toujours... Et quand on lui dit qu'il a bien fait, oui, c'est bien, mais il y a quand même ça que tu n'as pas fait. Hein? J'ai nettoyé là, le salon. Oui, mais là, dans le coin, il y a la poussière. Trop de reproches. Trop d'exigences. On veut un enfant parfait, qui ne bouge pas, qui parle comme un robot parfait. Trop de mauvaise humeur. Il y a des gens d'aussi loin que certains parents se souviennent, ils les ont jamais vus de bonne humeur. En Afrique, on avait des parents qu'on surnommait shérifs. Vous voyez le shérif avec les armes, avec les pistolets. Le gars, quand il arrive à la maison, tout le monde se barre. Parce que les baffes vont exploser, le type va se fâcher. Est-ce qu'on sait, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on laisse comme marque dans la vie de l'enfant? Parce que toutes ces choses, ça finit par miner la relation affective avec les parents. C'est comme ça que plus tard, les enfants commencent à reprocher à leurs parents les choses qu'ils ont vécues quand ils étaient petits. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Il y a des enfants qui sont restés avec des amertumes dans leur cœur concernant leurs parents. Parce que les parents n'ont pas veillé à ne pas les exaspérer. Parfois, on s'est justifié en disant, c'est un, parce que je rentre à la maison, il faut que les choses soient en ordre, et le lendemain, il faut travailler. Alors, on privilégie le fonctionnel. J'ai toujours dit à mes enfants, le relationnel est plus important que le fonctionnel. Mieux vaut m'entendre bien avec les gens, même s'il y a un peu de désordre, plutôt que avoir de l'ordre parfait et de ne m'entendre avec personne. Beaucoup de gens recherchent tip-top, ça doit aller. Et puis les gens, tu les abandonnes dans leur état, tu les insultes, tu les mâches sur le pied, tu les écrases. Mais rien à faire, tu t'en fous, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Et puis à la fin de ta vie, tu dis, il n'y a personne qui vient m'appeler, il n'y a personne qui me voit. Et gnagnagnagna. Mais oui, mais... Hey. Qu'est-ce que tu as fait? Veillons à cela. Deuxième chose que ce texte vient dire. Élever un enfant, c'est lui donner une éducation. Une éducation inspirée de la manière dont Dieu nous a éduqués. Dans ce texte, ça ne ressort pas assez, mais c'est vraiment élever-les selon Dieu. Éduquer, c'est quoi? C'est quoi éduquer un enfant? Éduquer un enfant, c'est lui donner des règles de vie. C'est lui apprendre les choses qu'il va devoir faire plus tard. C'est le préparer à ses futures responsabilités. C'est ça, éduquer un enfant. C'est lui donner le goût pour les choses bien faites plus tard. En quelque sorte, le responsabiliser. C'est donc une tâche pédagogique. Heureusement, tu as une femme qui a fait de la pédagogie. Donc, tu peux de temps en temps t'inspirer d'elle. Ouais. Toi, tu es éducateur aussi. Ah oui, tiens. Pédagogie, éducation. On se dispute pas ce matin. On reste calme, d'accord? Mais vous allez vous entraider. Vous n'allez pas faire valoir vos connaissances. Ah voilà, ça c'est bien, c'est très bien ça. Donc, vous n'allez pas faire valoir vos connaissances, vous allez mettre vos connaissances ensemble pour pouvoir amener Alix sur le bon chemin. Dieu, comment Dieu nous a-t-il éduqués? Comment Dieu nous éduque-t-il? Dieu nous éduque comme un père bienveillant. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous éduque comme un père bienveillant. Il n'est pas un père violent. Il n'est pas un père qui nous rabaisse. Il n'est pas un père qui nous impose des choses, qui nous donne des, qui nous tape, etc. Non, c'est un père bienveillant. Et on le sait. On sait qu'il nous aime. On sait qu'il a tout son cœur pour nous. On sait qu'il a plein d'affection pour nous. Dieu nous éduque à travers son propre exemple. Il s'est donné sur la croix. À peine mourrait-on pour un coupable. Dieu prouve son amour en ce que, alors que nous étions encore rebelles, Christ est mort à la croix pour nous. Il meurt pour nous. Il donne sa vie. Un père, on élève un enfant en étant prêt à donner sa vie pour l'enfant. Dieu nous éduque à travers pas seulement les actes qu'il pose, mais aussi à travers ses recommandations, ses conseils, ses enseignements. Il prend le temps de dialoguer avec nous à travers sa parole. Il prend le temps de nous instruire, de nous avertir, de nous dire ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Et par-dessus tout cela, Dieu nous éduque en créant une relation affective avec nous. Il ne nous éduque pas avec la cravache, mais c'est dans le cadre d'une relation affective. On sait que on passe du bon temps avec notre Dieu et on apprend des choses avec lui. Nous pouvons sentir son amour et nous pouvons goûter à cet amour et accepter ce que Dieu nous demande devient quelque chose d'agréable. Troisième élément, il ne ressort peut-être pas dans ce texte de manière claire, mais dans les développements de ce texte, il se voit. Élever un enfant, c'est aussi lui imposer une certaine discipline de vie, être prêt à le corriger, parfois d'une manière sévère, mais dans tous les cas, d'une manière aimante, en ayant le souci que ce que l'on fait puisse être approuvé par Dieu. Je vous raconte juste une anecdote, peut-être vous le connaissez, et si vous le connaissez, tant pis, c'est pas grave. Quand Jonathan était tout petit, il était très turbulent. Un jour, ma mère est à la maison, il était encore tout petit, quel âge? C'était en 2001, t'avais quel âge toi? 5 ans par là. Et il m'a embêté pour je ne sais pas trop bien quoi, ça m'a énervé, je lui ai couru après. Et j'étais fâché. Mais quand je dis fâché, c'est pas pour peu, hein, j'étais vraiment fâché. Et donc, maman, pour le frapper. Et le petit a échappé, et ma mère est allée cogner sur le bord du divan. Et mon doigt a fait crac. J'ai fait aïe! Et ma mère a dit, ah, tu voulais le frapper avec méchanceté. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit oui, c'était sous la colère. Et je me suis promis depuis ce jour-là que je ne frapperai plus mes enfants sous la colère. Que si je le fais, c'est quand, peut-être mon Dieu, je peux avoir un degré d'énervement, mais qui est contrôlé. Quand je suis sous la colère, parce que je fais bien la part, hein, la colère qui est un acte vraiment incontrôlé, donc où tu ne sais plus ce que tu fais, donc tu... Non. Je peux, je dis parfois aux enfants, ici, j'aurais pu te donner une fessée, mais je te donne pas de fessée parce que je suis vraiment sous la colère. Et ça m'énerve, donc je te laisse tranquille. Faire les choses de manière à ce que ça soit dans une démarche d'amour. Dans une démarche où nous voulons gagner l'enfant et pas le perdre. Pas le perdre à tout prix. La discipline, mais d'une manière aimante. Imposer à l'enfant, mais toujours en lui expliquant ce qu'il fait. Après tout, mes amis, après tout, qui est-ce qui va être le responsable de sa vie en âge adulte? C'est vous les parents? Non, c'est l'enfant. Donc, à quoi ça nous sert de le coincer et de lui dire « fais ceci, va là-bas ». Non, ça sert à quoi? Parce que en faisant cela, on ne le fait pas grandir et plus tard on va avoir toutes les misères puisque c'est nous qui allons devoir aller payer ses factures, son loyer, qui allons payer ses, quand il fraude au tech là, c'est nous qui allons payer. Alors que si nous responsabilisons l'enfant et nous lui donnons suffisamment d'outils pour que l'enfant puisse lui-même se prendre en charge à l'âge adulte, nous allons avoir des adultes responsables dont nous serons fiers. Je termine. Dans un monde qui s'égare de plus en plus, où tout nous éloigne de Dieu, soyons les jeunes. Vous qui n'êtes pas encore mariés, tendez bien l'oreille. Il y a une expression qui dit dans ma langue maternelle, quand on conseille l'enfant, le petit orphelin écoute. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de père et de mère pour le conseiller. Donc, quand il entend l'autre enfant là, ses parents lui conseiller, lui aussi il tend la main, pour que lui aussi apprenne. Tendez l'oreille, apprenez déjà maintenant, pour que après ça soit aussi une votre chemin, votre ligne de conduite. Tous ceux qui ne sont pas mariés, bien sûr, je les invite à bien sûr tenir compte de ça. Dans un monde qui s'égare de plus en plus et où tout nous éloigne de Dieu, soyons en tant que parents désireux de plus en plus, désireux plus que toute autre chose au monde, de laisser dans l'éducation de nos enfants des traces profondes de Dieu. Des traces qui permettront à nos enfants de construire leur propre vie selon le modèle du Dieu de la Bible et le Père de Jésus-Christ. Donnons à nos enfants l'envie, le désir et même la passion de Dieu. Consacrons-les dans nos prières. Montrons-leur par notre exemple le chemin qu'ils doivent suivre. Amen. Prions. Encore une fois, Seigneur, je veux te recommander Alix, te recommander ses parents, son entourage familial et toute notre communauté. Encore une fois, je te prie, Seigneur, continue à nous enseigner sur les enjeux de la famille chrétienne, sur les enjeux de l'éducation. Aide-nous, Seigneur, à introduire, à vivre selon ta pensée et à vivre nos vies de famille, nos vies de couple, nos vies dans l'éducation de nos enfants, Seigneur, selon toi et non pas selon le monde. Aide-nous, Seigneur, à cela, au nom de Jésus. Amen.